Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseignement.
Il n'y a pas de poussière sur votre Bible.
Cette diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes.
Que les pages sont tournées quand même de temps en temps.
Alléluia.
Dites, c'est ma Bible.
Des églises locales.
Je suis ce qu'elle dit que je suis. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Cet après-midi, on va m'enseigner la parole de Dieu. Mon cœur est ouvert. Mon cœur est réceptif. C'est une bonne terre qui porte du fruit par 30, 60 et 100. Je ne serai plus jamais le même. Je ne serai plus jamais le même. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une extraordinaire déclaration que de dire « Ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. » Est-ce que vous m'entendez ce soir? Vous êtes ce qu'elle dit que vous êtes. Oui, mais vous dites « Oui, mais dans le naturel, je suis malade. Dans le naturel, je suis fauché. Dans le naturel, j'ai plus de sous en banque. » Vous êtes ce qu'elle dit que vous êtes. Et vous pouvez faire ce qu'elle dit que vous pouvez faire. C'est très important de déclarer cela. Parce que cette déclaration doit descendre dans nos cœurs et devenir une réalité. Je suis ce que la parole dit que je suis. Ça reprend exactement ce que nous disons ce matin. Nous ne régnons pas en fonction des circonstances, mais notre règne est une position spirituelle. Je suis ce qu'elle dit que je suis, je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Un point, c'est tout. Beaucoup disent, mais non, mais je suis trop petit, mais non, mais je suis trop grand, mais je suis trop vieux, mais je suis trop âgé, je n'ai pas assez d'éducation. Vous pouvez faire ce qu'elle dit que vous pouvez faire. Parce que ce n'est pas votre capacité, c'est la capacité de Dieu en vous. Jésus, Dieu n'a jamais prévu que vous fassiez partie de quoi que ce soit. La seule chose qu'il vous a demandé, c'est de croire. Lorsque Dieu est venu vers Abraham et qu'il lui a dit « Tu vas être père d'une multitude de nations » et qu'il ne pouvait pas être père dans le naturel, la seule chose que Dieu lui demandait, c'était de croire. Il ne pouvait rien faire dans le naturel pour changer sa situation. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est croire. Et Dieu, sur cette terre, cherche des hommes et des femmes. La Bible dit qu'il parcourt les yeux de l'Éternel, parcourt toute la terre, parcourt toute l'étendue de l'univers pour voir ceux qui auront confiance en l'Éternel, ceux dont le cœur sera ferme en l'Éternel. Dieu cherche aujourd'hui un homme et une femme qui osera croire, qui osera dire oui Seigneur, qui osera dire oui je me tiens pour toi, oui je décide de croire, oui je décide de marcher selon tes principes. Alléluia. Cet après-midi j'aimerais vous parler de la foi. Et je sais que ces derniers temps nous avons plusieurs fois parlé de la foi. Mais il est important de ramener la foi et de ramener la foi et de ramener la foi vraiment sur l'estrade pour que le peuple de Dieu marche par la foi, comprenne qu'est-ce que la foi et avance par la foi. Alléluia. Parce que la foi c'est indispensable dans la vie du croyant. Il est dit « Mon juste vivra par la foi ». C'est facile à dire quand on n'a pas de problème. Beaucoup de amen et alléluia quand tout va bien. Mais que ce soit quand tout va bien ou quand tu vas mal, mon juste vivra par la foi. Notre seul appui est l'Éternel. Notre seule force est l'Éternel. Il est notre force, il est notre appui, il est notre bâton. Nous sommes des pèlerins dans ce monde. Alléluia. Et les pèlerins, vous savez, ils marchent sur cette terre, ils ont un bâton dans la main. En fait, les pèlerins, ils font des kilomètres et des kilomètres. Ils ont un bâton pour appui. Et nous sommes des pèlerins de l'Éternel. Et notre bâton, c'est l'Éternel. Notre bâton, c'est la parole de Dieu. La seule chose sur laquelle nous nous appuyons, sur la parole éternelle, immuable, que Dieu nous a donné sa parole. Alléluia. Maintenant, il est parlé de la foi dans 1 Pierre. Et en fait, Pierre nous dit des choses un petit peu étranges. Il nous dit des choses un peu bizarres. Voici ce que nous dit Pierre dans 1 Pierre au verset 6. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ok. Et puis après, il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Qu'est-ce qu'il nous dit, Pierre ? Il nous dit quelque chose de bizarre. Il dit, l'épreuve est quelque chose de précieux. Oh, Pierre n'a sûrement jamais dû passer par l'épreuve. Pierre n'a sûrement pas dû connaître qu'est-ce que c'est que l'épreuve. Et mes amis, Pierre si savait ce que c'était que l'épreuve. Et c'est parce qu'il savait ce que c'était que les épreuves qu'il pouvait en parler. Il disait que les épreuves sont précieuses. Ça change notre regard. Premièrement parce que dans les épreuves, nous n'y passons pas seuls. Parce que si nous y étions seuls, ce serait pas précieux, ce serait pas merveilleux. Ce serait terrible si nous étions seuls. Mais la Bible dit que même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous. En tout temps, il est avec nous. L'épreuve, ce qui est extraordinaire, c'est que nous n'y passons jamais seuls. Et la Bible dit que l'épreuve produit quelque chose de précieux en nous. L'épreuve produit la foi. Est-ce que vous vous rendez compte que ce n'est pas lorsque tout va bien que votre foi est en train de grandir? Ce n'est pas lorsqu'il n'y a pas de circonstances adverses. En fait, on va peut dire différemment, c'est lorsqu'il y a des circonstances adverses que votre foi est en train de se muscler, de se développer et de grandir. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut être un homme ou une femme de foi? Eh bien, mes amis, il va vous falloir passer par des épreuves. Ah, vous pensiez pas que j'allais vous dire ça après, hein? Vous n'auriez peut-être pas dit oui ou non. L'épreuve produit la foi. Alléluia. L'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable est pour résultat la louange et la gloire et l'honneur. Gloire à Dieu. Lorsque vous passez par la fournaise, mes amis, votre foi est éprouvée. Lorsque votre foi est éprouvée, elle est raffinée, elle est purifiée, elle est sanctifiée, elle devient plus précieuse, plus belle, plus pure, plus réelle, et elle vous communique encore plus de foi, de sorte qu'à la prochaine étape, vous avez déjà une foi bâtie dans l'Éternel, que ce Dieu qui vous a délivré une fois, vous délivrera encore une autre fois. S'il l'a fait avant, il le fera encore. Alléluia. Et votre foi se développe et se développe et se développe de la même façon qu'on développe un muscle. Et on dit souvent que la foi est un muscle. Mais ce muscle, nous avons besoin de le muscler. Vous connaissez le pasteur John Lowe? C'est un homme musclé. C'est un homme qui passe du temps à bâtir ses muscles. C'est important de bâtir nos muscles. Oui, mais ce qui développe nos muscles spirituels, ce sont les oppositions. Et ce n'est pas simplement les oppositions, mais c'est la façon dont nous réagissons aux oppositions. La façon dont nous nous comportons dans les oppositions. Durant les oppositions, notre attitude face et dans les oppositions. Alléluia. Moi-même, je suis en train de passer par le feu. Mais voyez ce que je prêche. Je prêche la parole immuable et sans compromis de l'Éternel. Alléluia. Parce que notre foi est développée dans les épreuves. Alléluia. Notre foi grandit. Voyez-vous, la foi, lorsqu'elle est éprouvée, lorsque nous sommes éprouvés dans notre foi, ça produit trois choses dans nos vies. Les personnes qui sont éprouvées dans leur foi, premièrement, sont rapprochées de Dieu. Mes amis, convertis ou inconvertis, incroyants, catholiques, protestants, évangéliques, tous les hic et tous les histes qui existent sur la terre, qui que ce soit, tous ceux qui passent par des épreuves se tournent vers Dieu. Vous dites, mais je suis déjà proche de Dieu. Passez par une épreuve, vous serez encore plus proche de Dieu. La chose qui est bonne dans les épreuves, c'est que vous êtes beaucoup plus proche de Dieu. Vous vous rapprochez de Dieu et vite fait. Parce que vous savez qu'il est votre assurance. Il est votre force. Et il n'y a que lui. Regardez ce qui s'est passé ces derniers jours. En fait, il y a un frère qui me disait ce matin que, en fait, le pape serait décédé. Est-ce que vous avez eu cette confirmation? Ok, donc je ne le savais pas, je l'ai appris ce matin. Cet homme qui a été un homme, un grand homme pour l'Église catholique et dans le monde entier, qui a été probablement, on peut le dire, le pape le plus important, qui a fait le plus, tout au moins, de ce 20e siècle, est parti dans la paix et dans la présence de Dieu. Vous savez, il faut garder nos yeux sur Rome, amen, et il faut connaître ce que déclare la fin de temps, et il faut prier aussi pour l'avenir, et prier pour les choses qui vont se produire par la suite, amen, afin que Dieu pose sa main. Et je pense d'ailleurs, bientôt vous enseigner des choses très importantes. Waouh! Des choses. Souvent je pense que j'ai envie de les réserver pour l'école biblique, mais je n'arrive jamais à les mettre de côté pour l'école de l'église. Il faut toujours que je vienne et que je vous les donne. Ah! Bientôt, je vais vous partager des choses importantes sur la fin des temps, et notamment sur Rome. Alléluia. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Jamais on a vu d'église qui était aussi pleine? Où est-ce qu'étaient les gens dans un temps d'épreuve? Où est-ce qu'ils étaient? Est-ce que nous devons avoir peur des épreuves? Non. Est-ce que nous devons avoir peur des tribulations? Non. Est-ce que nous devons prier obligatoirement que tout le monde soit béni, 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 béni? Non, la bénédiction souvent ne rapproche pas de Dieu, hélas. Mais les tribulations et les épreuves, mes amis, wouh, les gens se tournent, ils se collent, ils se scotchent à Dieu. Alléluia. Parfois je pense et je prie, Seigneur, prions pour la France, tu bénis la France, tu bénis la France. Oui, ben tu secoues un peu la France. Ça ne lui fera pas de mal non plus. Parce que tu la secoues et hop, les gens d'un seul coup, ils changent leur discours, ils changent leur pensée, ils changent leur façon d'être et ils se tournent vers Dieu. Et ils sortent de descendre de leur orgueil et ils tombent dans leur humilité devant l'Éternel. Et c'est la meilleure chose qui puisse leur arriver. Alléluia. Gloire à Dieu. L'épreuve rapproche de Dieu. L'épreuve purifie et sanctifie les vies. C'est-à-dire qu'elle change vos buts, elle change vos priorités. Elle remet vos priorités en ordre. Il y a beaucoup de choses futiles dans nos vies, à droite, à gauche, pour lesquelles nous passons du temps, ou pour lesquelles nous nous énervons, nous nous contrarions, nous gaspillons beaucoup d'énergie pour toute espèce de choses futiles. Oui, mais quand vous passez par l'épreuve, mes amis, l'épreuve de votre foi, votre vie est sanctifiée. Vos priorités sont remises en ordre. Hallelujah. Et la troisième chose que produit l'épreuve, c'est la gloire. Parce que vous vous rapprochez de Dieu et parce que vous purifiez et sanctifiez votre vie, c'est automatique. La gloire de Dieu est davantage libérée sur votre vie. Hallelujah. La foi, c'est très important. Et nous devons avoir la foi. Et en fait, la foi ici est comparée à de l'or. Parce que la foi, c'est de l'or. L'argent est important dans ce monde pour acheter, pour vivre, mais la foi est encore plus importante. La foi, c'est notre vie et notre survie. Si nous n'avons pas la foi, nous ne sommes rien et nous n'avons rien. La foi, c'est notre soutien, c'est notre force, c'est ce qui nous permet de tenir ferme lorsque tout le monde flanche. C'est ce qui nous permet de tenir debout lorsque 1000 tombent à notre droite et 10 000 à notre gauche. C'est la foi c'est de l'or, c'est vous pouvez comparer cela à des barres d'or, des lingots d'or. C'est un lingot d'or dans votre vie, c'est quelque chose que vous devez nourrir, protéger et développer. La foi. Maintenant la Bible utilise deux mots dans la Bible, elle parle de croire et elle parle d'avoir la foi. Et je crois que si la Bible utilise deux mots, croire et avoir la foi, c'est parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose de croire et d'avoir la foi. Or, il y a énormément de gens qui croient, mais c'est pas tout le monde qui passe à l'étape d'avoir la foi. La foi, c'est quelque chose de spécial. Est-ce que vous comprenez? La foi, c'est simple comme un enfant. La foi, c'est pur. C'est pas compliqué. Quand je dis quelque chose de spécial, je suis pas en train de dire que c'est compliqué. Parce que la Bible dit qu'il nous faut avoir la foi comme un cœur d'un petit enfant. Amen. Mais voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui croient. Ils croient dans la Bible. Ils croient et ils reconnaissent la vérité de la Bible. Mais croire et reconnaître la vérité de la Bible, ça ne veut pas pour autant dire être dans la foi. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Est-ce que vous comprenez cela? Voyez-vous, la Bible dit que Abraham a cru Et parce qu'il a cru, ça lui a été imputé à justice. Parce qu'il a cru, il est entré dans la justice de Dieu. Mais il a fallu qu'il ait la foi pour obtenir les promesses. Croire, c'est le début de la foi. Mais la foi, c'est au-delà de croire. Hallelujah. Mes amis, la foi peut être un processus, immédiate, ou elle peut être un processus. Dans la Bible, bien souvent, nous avons vu des gens qui ont rencontré Jésus et qui sont passés, qui avaient toute espèce de situation dans leur vie, que ce soit la lèpre, que ce soit la paralysie, que ce soit le fait d'être aveugle. Et Jésus s'est tourné vers ces gens et leur a dit « Ta foi t'a sauvé ». Mes amis, c'est pas Jésus qui a fait quelque chose. C'est leur foi qui leur a acquis quelque chose. Est-ce que vous comprenez que dans la foi, vous n'êtes pas en train de mendier et de supplier Jésus de faire quelque chose pour vous? Votre foi obtient pour vous. Votre foi acquiert pour vous. C'est pourquoi, comme je vous le disais rapidement jeudi, c'est pourquoi Jésus, bien souvent, n'a même pas imposé les mains aux gens. Les gens ont reçu par leur foi. Lorsque Jésus s'est tourné devant le tombeau de Lazare, il n'est pas entré imposer les mains à Lazare. Il a dit « Lazare, sors !» Lorsqu'il est allé pour guérir le serviteur du centenier, il était en chemin. Il allait pour imposer les mains à cet homme. Et cet homme a envoyé un serviteur qui lui a dit « Ne daigne même pas entrer sous mon toit. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis simplement une parole. » Et mon serviteur sera sauvé, sera guéri. Et il s'est tourné, Jésus s'est tourné. Je n'ai jamais vu une foi aussi grande en Israël. Cet homme comprenait. Moi, je vais vous dire une chose. Si mon enfant était malade, si quelqu'un était malade, si mon serviteur était malade et que Jésus passait à côté, c'est sûr, j'ai pensé à moi. C'est sûr que je n'aurais pas envoyé un serviteur dire, tu n'es pas digne d'entrer sous, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis simplement une parole. C'est sûr que je me serais accroché à son manteau. Je me serais accrochée à sa robe et je lui ai dit « rentre dans ma maison ». Et une fois que mon serviteur était guéri, je lui ai dit « attends, je vais te faire une petite pièce à côté pour que tu restes là, pour que tout le monde reste en bonne santé dans ma vie, dans ma famille et que tout aille bien. Tu es sûr que tu veux repartir, Jésus? T'es pas sûr que tu veux que je te fasse un repas et que tu te reposes un peu plus? Reste un peu plus longtemps. Il fait trop chaud dehors, reste au frais. » Cet homme avait une foi incroyable. Jésus de Nazareth allait en direction de sa maison. Il envoie un serviteur dire « je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis simplement une parole et mon serviteur sera guéri. » Combien d'entre vous, vous auriez fait cela? N'auriez-vous pas fait comme moi? Dis Jésus, entre dans ma maison, reste dans ma maison aussi longtemps que tu veux et le plus longtemps possible. Hallelujah. Mais il n'a pas fait ça parce qu'il avait la foi. Et c'est ça ce que c'est la foi. La foi, c'est différent. La foi, c'est spécial. La foi, c'est unique. C'est quelque chose, c'est une certitude que vous avez à l'intérieur. C'est une conviction qui s'oppose au sens naturel, qui n'est pas contrôlée par les choses physiques de ce monde. La foi n'est pas sujette. C'est pourquoi, bien souvent, nous croyons dans la parole de Dieu. Nous savons que c'est la vérité. Ok? Nous savons que c'est la vérité que Dieu sauve. Nous savons que c'est la vérité que Dieu guérit. Nous savons que c'est la vérité que Dieu bénit. Nous savons que c'est la vérité. Mais entre le fait de savoir que c'est la vérité, comme je sais maintenant que c'est la vérité que le pape est mort, apparemment, est décédé, entre le fait de savoir que c'est la vérité et de monter dans la foi qui est cette certitude absolue qui défie tous les sens et les choses physiques que je vois, il y a une différence. C'est pourquoi beaucoup ne reçoivent pas et nous ne jetons pas la pierre sur personne. Mais la foi, vous savez, le don de la foi, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose de différent. C'est quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose d'extraordinaire. Hallelujah. La femme à la perte de sang. Ça, c'est quelqu'un d'extraordinaire aussi. Mais voyez-vous, cette femme-là, elle avait la foi. Amen. Comment on sait qu'elle avait la foi? Elle avait la foi parce qu'elle a reçu. Quand vous avez la foi, vous recevez. Amen. Mais voyez-vous, pour avoir la foi et pour monter au niveau de la foi, elle a fait quelque chose. Elle a dit, quand je vais toucher son vêtement, je serai guérie. Quand je vais toucher son vêtement, je serai guérie. Elle se tenait là, dans sa maison, elle se disait, quand il va passer par pas loin de chez moi, je vais aller le voir, je vais toucher son vêtement, je serai guérie. Puis un jour, elle a entendu qu'il passait vers chez elle. Elle est sortie de sa maison, elle s'est tenue au coin de la rue, elle a dit, je vais toucher son vêtement, je vais être guérie. Puis elle a pris son courage à deux mains et elle est partie en se répétant la chose. Je vais toucher, quand je vais toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle a parlé sa foi, elle a parlé sa foi, elle a parlé sa foi, elle a parlé sa foi. Et quand elle a touché le bord du vêtement de Jésus-Christ, une force est sortie de lui et elle a reçu son miracle. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que pour avoir la foi, il est important de confesser. La confession est un des moteurs de la foi. Est-ce que vous comprenez? Quand vous apprenez à confesser la parole de Dieu, vous comprenez que la confession vous fait passer de la croyance, du fait de croire, savoir que c'est la vérité, vous savez, vous passez au domaine de la foi. Vous comprenez? Donc j'étais en train de vous dire que la foi est soit quelque chose d'immédiat, soit c'est un processus. Et le processus va exiger de confesser et de confesser la parole de Dieu jusqu'à ce que cette parole devienne une certitude dans votre cœur qui produise la foi, qui vous fasse passer des choses que vous savez aux choses dont vous êtes certain. Vous avez une certitude, une assurance. Alléluia. Maintenant, dans la parole de Dieu, on voit que lorsque les gens ne sont pas capables de confesser, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de confesser autre chose que des choses négatives. Eh bien, Dieu a dit à ces gens, au moins, si vous n'êtes pas capable de confesser la parole de Dieu, au moins apprenez à vous taire. Taisez-vous si vous ne savez rien dire. Vaut mieux rien dire et vaut mieux pas parler que de parler des paroles qui vont détruire votre foi, qui vont détruire votre vie de prière. Vaut mieux ne pas parler. Ce qu'il vaut mieux, le luxe, le meilleur, c'est de parler la parole de Dieu. Mais les gens qui ne sont même pas capables de parler la parole de Dieu, au moins qu'ils se taisent. Parce que les paroles négatives ont un effet sur nos vies, ont un effet sur notre force, ont un effet sur notre foi, ont un effet sur notre morale, ont un effet sur notre santé, ont un effet dans tous les domaines de notre vie. Et voyez-vous, comme le passage que je lisais ce matin dans Exode 14, où les Égyptiens couraient derrière les Hébreux. Et voyez-vous, Dieu avait fait de grands miracles. Dieu avait envoyé ses 10 plaies d'Égypte. Rappelez-vous combien de fois les Hébreux s'étaient tournés contre Moïse en leur disant « Mais qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es venu aggraver notre situation. Depuis que tu es là avec toi, avec tes plaies, voilà qu'on doit faire plus de briques, qu'on doit travailler davantage. » Comprenez? Pas capable de dire la parole de Dieu. Pas capable de croire. Alors les voici qui partent. Ils sont toujours pas. Ils ne sont pas un peuple de foi. Moïse était un homme de foi. Mais les gens qui suivaient Moïse n'étaient foncièrement pas des gens de foi et sont même des gens qui ont refusé d'aller dans la foi et qui ont cultivé leur doute et leur incrédulité et dont tous les os sont morts dans le désert. Lorsqu'à un moment très crucial, Dieu a envoyé ses 10 plaies, a fait exploser sa gloire. Alléluia. Et encore le cœur de Pharaon a été endurci par l'Éternel parce que Dieu avait décidé de détruire cette nation et de l'abaisser et de l'humilier jusqu'au bout parce que la nation émergente allait être la nation d'Israël. Amen. Et plus la nation d'Égypte qui était à l'époque la nation émergente, mais que Dieu a dépouillé et humilié de tout, leur volant, leur détruisant leur bétail, leur détruisant leur récolte, leur détruisant leur premier-né, leur détruisant tout par les poules, les grenouilles, etc. Lorsque Dieu endurcit leur cœur parce qu'il veut les réduire à néant, pour révéler sa gloire, alléluia, parce que Dieu est celui qui fait monter les royaumes et descendre les royaumes et monter les royaumes et descendre les royaumes, parce qu'il est en contrôle de toutes choses et qu'il est le souverain. Donc il endurcit le cœur de Pharaon. Pharaon court derrière avec ses chars et ses chevaux, court derrière les Hébreux. Les Hébreux se tournent. Qu'est-ce qu'ils voient ? Un immense nuage de poussière qui montrait une immense armée qui les poursuivait. Et Moïse parle au peuple et leur dit « L'Éternel combattra pour vous, mais vous fermez-la !» Littéralement, il leur dit « Taisez-vous, gardez le silence. Si vous ne pouvez rien dire de bon, au moins taisez-vous. » Mais c'est une bonne chose dans nos vies. C'est un bon principe. Lorsque vous ne savez pas quoi dire quoi dire de bon, gardez le silence. Parce que lorsque vous gardez le silence, vous protégez votre foi. Vous protégez votre cœur. Vous protégez vos émotions. Hallelujah. Gloire à Dieu. Lorsque Josué, qui arrivait avec une nouvelle génération, amen, était sur le point de prendre Jéricho. Vous savez, Jéricho, c'était pas une petite chose. Et tous les enfants qui avaient grandi et qui suivaient maintenant Josué pour aller prendre Jéricho, ils n'avaient pas vu les 10 plaies d'Égypte. Ils n'avaient pas vu la mer Rouge s'ouvrir. Ils n'avaient pas vu ce que c'était que Dieu qui faisait des prodiges. Donc ils étaient là à suivre Josué dans cette prise de Jéricho et Dieu donne des instructions à Josué et leur dit « Voilà ce que vous allez faire. Vous allez faire 6 fois le tour, hallelujah, 6 fois le tour de cette muraille et vous allez vous taire. Et le septième jour, vous allez faire 7 fois le tour dans le silence et à la fin, vous allez pousser un cri de victoire. Hallelujah. » Et parce qu'ils se sont tus, amen, et que la seule chose qu'ils ont fait, c'est un cri de victoire, ce cri de victoire a ébranlé les forteresses de Jéricho qui sont tombées à terre par la puissance surnaturelle de Dieu. Hallelujah! Mais cela a exigé du silence, le silence de contre l'incrédulité, le silence contre les paroles négatives, hallelujah, et un cri de victoire qui était un cri de foi. Gloire à Dieu! Hallelujah. Mais mes amis, Dieu ne vous appelle pas à vous taire. Dieu vous appelle en fait à confesser. Parce que la Bible dit qu'il est le grand souverain sacrificateur de votre confession. Est-ce que vous savez cela? Regardez dans Hébreux. Hébreux 3 au verset 1. C'est pourquoi frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons Jésus, qui a été fidèle à celui qu'il a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Comment Jésus est appelé ? Le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, de la foi que nous confessons. Alléluia. Hébreux 4, regardez au verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons ou dans la foi que nous confessons. Qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire ? C'est à demeurer fermes dans notre confession. Est-ce que vous m'entendez ? Demeurer fermes dans notre confession. Parce que bien souvent, les choses ne se passent pas au moment où nous voudrions. Nous aimerions voir le résultat tout de suite. Nous voulons voir le changement tout de suite. Mais lorsque nous prions, nous avons l'assurance que Dieu nous a entendus et qu'il nous a déjà donné la chose que nous lui avons demandée. Hallelujah. Et parce que nous avons cette assurance, alors nous avons notre confession. Et notre confession doit demeurer et rester ferme jusqu'à ce que nos yeux voient. Premièrement, nos yeux spirituels doivent voir avant que nos yeux naturels doivent voir. Notre bouche spirituelle doit parler avant que notre bouche naturelle doit parler. Le spirituel doit passer avant le naturel. Nous devons donc rester fermes dans la foi que nous professons. Et le christianisme est appelé la grande confession. Regardez avec moi dans Romains 10. Oups. Hallelujah. Regardez avec moi dans Romains 10. Au verset 7, bien sûr que vous connaissez ce passage. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Est-ce que la parole est près de vous ? Ouh ! Hé ! Oh ! Y a quelqu'un ici ce soir ? La parole est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Je sais que vous aimez des, vous êtes des gens qui aimez la prédication. Je le sais. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? J'enseigne ce soir. OK. Donc soyez là dans le nom de Jésus. Il n'y a pas que la prédication dans la vie, vous savez. Il y a aussi la, l'enseignement, c'est important. Hallelujah. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche, écoutez bien, parce que c'est très intéressant. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est étrange. C'est étrange. Il y a quelque chose d'étrange là. Est-ce que vous le voyez ? Ah, vous n'avez jamais réfléchi sur ce verset. Passez plus de temps sur le verset, relisez-le. Allez, examen. Sortez tous une feuille. Il n'y a pas quelque chose qui vous contrarie là ? Qu'est-ce qui vous contrarie ? Entre la confession et quoi ? Et là ? Yeah, good, good. Oui ? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois, moi j'aurais mis d'abord si tu crois dans ton cœur, et après si tu confesses de ta bouche. Oh, tiens, c'est pas dit pareil. Si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur. D'abord, il nous est dit de confesser parce que la confession nous amène à croire. Vous avez vu ça ? Et parce que la confession nous amène à croire, après nous sommes sauvés. Oh, c'est intéressant. Maintenant, écoutez, vous n'êtes pas sauvés avant d'avoir confessé. Est-ce que vous réalisez ? C'est écrit là. Vous n'êtes pas sauvé avant d'avoir confessé. C'est parce que vous avez confessé et cru dans votre cœur qu'après vous êtes sauvé. On peut décliner. Vous n'êtes pas guéri avant d'avoir confessé. Vous n'êtes pas libéré avant d'avoir confessé. Dieu n'a pas pourvu à vos besoins avant d'avoir confessé. Déclinez, déclinez selon votre besoin. Là, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, la confession vous amène à croire, libère votre foi, donne plus de potentiel à votre foi, nourrit votre foi. Et après, vous parvenez au salut. Vous confessez, vous croyez davantage et vous recevez. Est-ce que tout le monde le voit, cela ? C'est pas extraordinaire, ça ? Oh, oh. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Bon, je prêche à moi toute seule, c'est pas grave. Tant pis. Hallelujah. Ce qui veut dire que la foi parle toujours avant que Dieu n'agisse. La foi parle. La foi parle avant que Dieu n'agisse. Parler la foi permet à Dieu d'agir. Tout ça, c'est très important. Hallelujah. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a dit qu'il y ait la nuit, qu'il y ait le jour et il y a eu la nuit et le jour. Dieu a dit qu'il y ait des grands luminaires qui illuminent la nuit et il y a eu des grandes étoiles qui ont illuminé. Dieu a dit et les choses sont arrivées. Hallelujah. C'est toujours le même principe. C'est toujours le même principe. Vous devez affirmer la parole de Dieu dans votre vie. Et vous devez le faire dans le bon temps comme dans le mauvais temps. Hallelujah. C'est un exercice. Ça ne se fait pas facilement. Ça demande de l'entraînement. Ça demande de s'y mettre tous les jours et tous les jours. Ça demande même d'avoir un carnet de versets. Que vous prenez tous les matins, vous déclarez « J'ai la pensée de Christ, je suis transformé par le renouvellement de mon intelligence et je ne me conforme pas au siècle présent. » Hallelujah. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Lorsque l'ennemi vient devant moi par un chemin, il s'enfuit devant moi par sept chemins. Vous parlez la parole de Dieu. Vous parlez la parole de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais il m'a donné un esprit de force, d'amour et une raison saine. Hallelujah. Vous parlez la parole de Dieu. Vous parlez la parole de Dieu. Il a envoyé sa parole et il m'a guéri. Hallelujah. Sa parole est la santé pour tous mes os, la force dans toutes mes, pour tous mes muscles. Il me donne la vigueur à mes membres et je rajeunis comme l'aigle. Vous confessez la parole de Dieu. Vous affirmez la puissance et l'autorité et le règne et la souveraineté de la parole de Dieu sur votre vie dans le bon temps comme dans le mauvais temps. Hallelujah. Vous affirmez que dans les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéri. Vous avez des problèmes financiers, vous affirmez que Dieu pourvoit tous vos besoins selon ses richesses en Jésus-Christ et votre Père est riche. Hallelujah. Gloire à Dieu. Hallelujah, hallelujah. Vous déclarez qu'il vous donne les désirs de votre cœur. Si vous avez des besoins, des désirs, des besoins émotionnels, vous déclarez Dieu donne tous les désirs de mon cœur. Vous déclarez que vous faites de grands exploits parce que ceux qui connaissent leur Dieu feront de grands exploits. Vous déclarez que vous ne vous inquiétez de rien, mais que vous demandez à Dieu. Hallelujah. Gloire à Dieu. Vous déclarez que sa parole ne peut pas être brisée, que Dieu et sa parole sont un. Est-ce que vous réalisez que Dieu et sa parole sont un? C'est extraordinaire. Vous déclarez que la parole de Dieu est la vérité, que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, qu'aucune de ses paroles, hallelujah, ne retourne sans avoir accompli le but pour lequel elles ont été envoyées. Hallelujah. Gloire à Dieu. Voyez-vous, la foi et l'incrédulité sont basées sur des affirmations. L'affirmation d'un doute produit en vous du doute, de la peur et de l'insécurité. C'est pourquoi lorsque vous affirmez un doute, vous libérez dans votre être, dans votre cœur, dans votre esprit, de la peur, de l'insécurité, de la crainte, de l'échec. Mais lorsque vous affirmez la foi, en dépit des circonstances, lorsque vous affirmez la foi en dépit des circonstances, vous nourrissez votre esprit de force, de paix, de victoire. Hallelujah. Et quand vous passez par des temps difficiles, vous en avez besoin. Vous avez besoin d'affirmer la suprématie de la parole de Dieu. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Parce que vos paroles ont un effet sur vous. Hallelujah. Lorsque les 12 espions, amen, lorsque Moïse a envoyé ses 12 espions pour visiter le pays de Canaan, que Dieu avait dit, je vous le donne, je vous le donne. Ils sont partis, amen, ils ont tout vu exactement comme Dieu leur avait dit. Ils ont vu les grappes de raisin, ils ont vu le lait qui coulait, ils ont vu le miel qui se répandait, ils ont vu la richesse de ce pays, ils ont vu que eux qui étaient dans le désert, amen, ils ont vu que ce pays était un pays gras, prospère, riche, fertile. Ils ont vu tout ce que Dieu leur avait dit. Mais ils sont rentrés en donnant un mauvais rapport. Vous savez bien que donc 10 des espions ont dit, oui, ce pays est comme ci, oui, ce pays est comme ça, mais... C'est toujours le « mais » qui pose problème. Quand il y a un « mais » dans votre phrase, dites-vous que c'est plus la foi. La foi, elle est avant le « mais ». Tout ce qui vient après le « mais », c'est ce qui vous fait tomber dans l'incrédulité. Arrêtez-vous avant le « mais ». Oui, il y a de bonnes productions dans ce pays. Oui, il y a des fruits. Oui, il y a des raisins. Oui, il y a du miel. Oui, il y a du lait. Oui, nous allons y arriver. Oui, nous allons vaincre. Alléluia. Mais ils ont dit oui, mais il y a des géants. Et ils sont tellement grands et tellement forts qu'à leurs yeux, nous avons l'air de sauterelles. Lorsqu'ils ont dit ce rapport, ils ont détruit leur potentiel. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est lorsqu'ils ont dit ces paroles, ils détruisaient la foi que Dieu avait mis dans leur cœur, ils détruisaient la promesse de Dieu, ils détruisaient la parole de Dieu, ils détruisaient leur potentiel pour vaincre parce qu'ils avaient tout le potentiel pour gagner dans cette situation. mais parce qu'ils ont dit que ces géants étaient bien plus grands qu'eux et qu'ils avaient l'air de sauterelles, ils détruisaient leur potentiel. Ne détruisez pas votre potentiel. Ne dites pas de mauvaises paroles à votre sujet. Ne dites pas « je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela ». Alléluia. Vous détruisez le potentiel de Dieu en vous. Déclarez ce que vous êtes. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je suis capable. Je suis bien capable. Alléluia. Dieu peut faire en moi. Je peux tout par celui qui me fortifie. Tournez avec moi dans 1 Samuel 17. Vous savez, les champions n'ont pas été des champions sans raison. Comme je l'ai dit, les champions étaient des gens extraordinaires. Des gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires et qui ont réagi différemment de tous les autres. Dans 1 Samuel 17, voici un homme qui a su valoriser son potentiel. Vous avez à l'intérieur de vous un potentiel. Vous avez le potentiel de vaincre, vous avez le potentiel de gagner, vous avez le potentiel de surmonter, parce que Christ en vous est l'espérance de la gloire. Pas par vos propres forces, je ne suis pas en train de vous faire la méthode Coué, je vous dis parce que Dieu habite en vous, alléluia, vous avez de l'espoir, vous avez de la force, vous avez un avenir. Je ne suis pas en train de vous dire, je suis de vous dire, de vous répéter, je suis beau, je suis beau, je suis beau, je suis beau, je suis beau. Je me sens fort, je me sens fort, je me sens fort, je me sens fort. Devant la glace, sur la base de vos capacités, je suis en train de vous dire, de déclarer ce que vous êtes sur la base de ce que dit la parole de Dieu. Parce que Christ habite dans vos corps mortels. Alléluia. Et que c'est lui qui peut ranimer cette capacité. Et que vous devez avoir confiance dans celui qui vit en vous. Vous n'êtes pas tout seul. Il a dit que vous ne serez jamais tout seul. Amen. Jusqu'à la fin du monde. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi jusqu'au bout du monde. Il est non seulement avec vous, mais il est en vous. C'est pour ça qu'il ne vous laissera jamais. Parce qu'il est en vous. Alléluia. Donc voilà ce qui s'est passé. David est face à ce Goliath. N'est-ce pas? Mes amis, tout le monde tremblait. Le roi tremblait. Ses frères tremblaient. Toute l'armée de l'Éternel tremblait devant ce Goliath. Qui lui avait totalement confiance dans son potentiel. Mais son potentiel à lui était basé sur ses forces à lui. Parce qu'il savait qu'il était un géant, parce qu'il avait vaincu beaucoup de géants, beaucoup d'hommes forts dans sa vie, parce qu'il avait eu beaucoup de succès et de réussite, il avait confiance dans son potentiel. Et parce qu'il avait confiance dans son potentiel, il avait une grande bouche dans cette vallée. Et il disait, oh vous là les Israélites, venez, envoyez-moi un chien, envoyez-moi quelqu'un. Que je le détruise et que je fasse de vous tous les serviteurs. Et il avait une grande bouche. Et lorsqu'il a vu le petit David arriver, il a dit, oh, regardez-moi ce chien qu'il m'envoie. Je vais le jeter en pâture en un instant. Oui, mais David, il avait un potentiel à l'intérieur de lui. Et il n'avait pas l'intention de détruire son potentiel par ses paroles. Parce que vos paroles peuvent détruire votre potentiel. Mais vos paroles aussi peuvent construire votre potentiel. Et David a commencé à dire des choses extraordinaires. Hallelujah. Il a dit, premièrement, au verset 34, il a dit, ton serviteur, et il parle donc à Saül, il dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera. Voilà, il commence. Voilà la parole. Voilà la parole. Il rappelle les faits. Ça, ce sont des faits. Maintenant, il parle de ce qui n'est pas encore arrivé. Mais il dit déjà la fin avant le commencement. Et il dit... C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le hein, et il en sera ainsi du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, là il parle par la foi, là il multiplie son potentiel. Là il fait une poussée, une croissance, une multiplication dans sa vie et dans sa foi. Il parle la parole de Dieu, il parle les paroles de Dieu. Il dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Devant l'assurance, la conviction, hallelujah, de David, Saül a dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Tournez votre page. Et au verset 45, hallelujah, j'aime lire toujours ce passage. Combien de fois je vous l'ai lu? Mais mes amis, c'est tellement extraordinaire. Au verset 41, le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regardait et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Et le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens avec moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Voilà ce qu'a dit la grande bouche d'un homme qui avait confiance dans sa force et dans sa capacité. Maintenant, voici ce que dit un homme qui n'a pas confiance dans sa force et dans sa capacité, mais qui a confiance dans l'Éternel et qui a confiance dans la parole de Dieu. Et il dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, et tout le monde dit aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Et voilà, il parle maintenant. Il parle de ce qui va se passer et qui ne s'est pas encore passé. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. C'est exactement ce qui s'est passé, mais il l'a dit avant que cela se passe. C'était important qu'il le dise avant, parce que ça le faisait monter du niveau de croire au niveau de la foi. Il fallait le dire. Il faut dire la fin dès le commencement. La fin de ma vie, de mes circonstances, c'est que je gagne. C'est que je réussis. C'est que je suis en bonne santé. C'est que je suis une plantation de l'Éternel. Je suis un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison. Je suis fertile. Je suis béni. Je suis à la tête et non à la queue. Je suis au-dessus et non au-dessous. Je suis une création merveilleuse. J'ai la victoire sur tous mes ennemis. Le diable est sous mes pieds. Il faut prononcer la fin dès le commencement. Il a dit, je te couperai la tête et aujourd'hui je donnerai les cadavres des champs, les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Mais qu'est-ce qui lui a permis de courir et de ne pas être paralysé par la peur? C'est sa foi. Ce sont ses paroles de foi. La foi et les paroles de foi vous donnent l'assurance. À chaque fois que vous êtes saisi par la peur, vous avez besoin de prononcer la parole de Dieu. Je ne dis pas que la peur ne frappera pas à votre porte, mais je dis que la foi doit répondre. Lorsque la peur vient frapper à votre porte, c'est la foi qui doit répondre. C'est la parole de Dieu qui doit répondre. Hallelujah. David courut sur le champ de bataille. Amen. À la rencontre du Philistin, il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre, la lança avec sa fronde, frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, et on peut dire et avec la parole de Dieu, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête, exactement comme il l'avait dit. Hallelujah. Vos paroles ont un effet sur votre force. Vos paroles ont un effet sur votre vie. Ce qui donne la force à votre vie, c'est la parole de Dieu. Il faut la parler dans vos circonstances. Il faut la parler quand vous êtes en bas. Il faut la parler quand vous êtes en haut. Quand vous avez quand vous avez besoin de force, quand vous avez besoin d'encouragement, quand vous avez des soucis, des inquiétudes. C'est la parole de Dieu qui doit être là pour vous remonter, vous ramener dans la position, vous ramener dans la position de Christ. Hallelujah. Vos paroles peuvent entraîner du découragement ou de la défaite dans votre vie. Elles peuvent être un poison, un venin mortel, si ce n'est pas la parole de Dieu, si ce sont des paroles de découragement, ou vos paroles peuvent être facteurs de force, de paix et de réussite. La seule antidote à la peur, à l'angoisse, c'est la parole de Dieu. Il n'y a qu'une seule antidote. Lorsqu'il y a la peur, lorsqu'il y a l'insécurité, lorsqu'il y a la crainte, la déprime, la dépression, les émotions en bas qui viennent vous saisir, il n'y a pas d'autre antidote que la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et j'aimerais terminer avec cela. Votre foi, mes amis, votre foi ne dépassera jamais le niveau de votre confession. Maintenant, pensez à ce à quoi vous confessez. Réfléchissez à votre confession. Votre foi ne dépassera pas le niveau de votre confession. Si vous ne confessez rien, si vous confessez mal, si vous confessez peu, si vous confessez bien, si vous confessez beaucoup, si vous confessez grand, alléluia, gloire à Jésus, votre foi sera au niveau de votre confession. C'est tout. Est-ce que vous avez reçu cela cet après-midi ? Alléluia.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.